Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Je profite du début de ce podcast quand j'ai toute votre attention pour faire la promo auprès des professionnels de santé. Donc, si vous êtes thérapeute de couple, sexologue, sexothérapeute, coach de vie, étudiant, étudiante dans ces formations-là, que vous accompagnez des couples, que vous suivez des couples en séance, écoutez bien, j'ai des webinaires professionnels pour vous accompagner dans votre pratique. Et celui qui arrive prochainement, si vous écoutez cet épisode à temps, c'est le webinaire sur l'infidélité dans le couple, gérer l'après. Ça se passe le 26 octobre à 11h15. Nous serons un groupe de plusieurs professionnels de santé pour parler de cette thématique-là. Je vous échangerai les challenges que l'on peut avoir en séance, mais aussi ce que peuvent ressentir nos clients vis-à-vis de cette infidélité. On va essayer de voir comment on peut évaluer l'infidélité. On verra le cycle de la réparation, les points de sécurité en tant que thérapeute. Et on terminera, comme toujours, par votre préférence, les échanges en intervision entre professionnels. Donc, si vous voulez prendre votre place, je vous mets le lien tout de suite dans les notes de l'épisode. Allez voir ça. Et si vous écoutez cet épisode après le 26 octobre, sachez que le replay est disponible. Il y a déjà 4 webinaires pour vous accompagner, que ce soit en termes de désir, des langages érotiques, de la séparation et de l'infidélité. Allez, on retourne à l'épisode. Les épisodes d'infidélité dans une relation peuvent faire très mal à la relation, à la personne trompée, à la personne qui trompe. Perte d'estime de soi, de confiance en soi, de confiance en l'autre ou aux autres. La blessure peut être tellement grande qu'elle peut détruire un couple. Certaines personnes ne s'en remettent jamais et gardent avec elles les séquelles de la douloureuse épreuve de la tromperie. Qui blâmer ? La personne trompée ? La personne qui a trompé ? L'amant ? L'amante ? La société et l'entourage peuvent être durs sur ces sujets-là. La personne trompée peut remonter le fil du temps pour essayer de comprendre ce qui a fait que ça a dérapé. Peut ne pas comprendre puisque tout allait bien et rien ne laissait présager une telle trahison. La personne qui a trompé peut se sentir extrêmement coupable, honteuse, peut ne pas comprendre son ou ses gestes ou alors peut très bien identifier les raisons des tromperies. Dans cette histoire, rien n'est simple. Et ce n'est pas les thérapeutes qui accompagnent les couples qui vous diront le contraire. Gérer la crise de la tromperie est complexe. La semaine dernière, nous avons déjà parlé d'infidélité sous le prisme d'une psychologue, sexologue et thérapeute de couple, Estelle Becquet. J'avais envie d'aborder cette thématique avec le regard d'un homme qui est passé par là et qui est aussi life et love coach, Vincent Liandra. Vincent accompagne les personnes à travers les crises pour devenir soi-même confiant et authentique dans ses relations. Je vous l'ai dit, l'infidélité, c'est une thématique qui est lourde, complexe, mais ce que j'apprécie chez Vincent dans son contenu, c'est qu'il apporte tout ça avec de la nuance et de nouvelles perspectives. Il y a beaucoup de philosophie et de plans d'action dans cet épisode. Sachez que sa vision peut peut-être vous déstabiliser, surtout si vous avez été trompé. Peut-être que ça peut faire émerger de la colère, de l'incompréhension, de se dire « mais comment on peut dire de telles choses ?» Et justement, je pense que c'est important d'entendre d'autres choses aussi sur le sujet de la tromperie. Bref, si c'est le cas, écoutez cet épisode avec curiosité, pas besoin d'adhérer ou de tout comprendre, simplement d'être ouvert, ouverte à d'autres propositions de cheminement. En tout cas, moi c'est ce que j'essaye de faire et c'est pour ça que j'avais envie d'entendre Vincent sur ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Vincent, bienvenue dans Camille parle sexe.
Merci Camille, merci de me recevoir, je suis ravie.
Tant mieux que tu sois ravie. On va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, qui crée beaucoup de blessures aussi, qui peut inquiéter aussi quand on est dans des relations intimes, c'est l'infidélité. Alors, je suis ton compte Instagram quand même depuis un certain moment, et je trouve ça fascinant que tu dédies complètement ton contenu à l'infidélité et aux relations. Selon l'IFOP, une étude de 2022, l'infidélité concerne 46% des hommes et 38% des femmes qui ont trompé au moins une fois dans leur vie. Mais moi, je voudrais savoir pourquoi tu t'es intéressée à cette thématique en particulier.
Eh bien, tout simplement parce que ça m'est arrivé personnellement dans ma vie, par deux fois, dans mes deux grandes relations. J'ai vécu 8 ans en couple exclusif et j'ai été la personne qui a été infidèle. On a vécu une rupture douloureuse. J'ai recommencé dans un nouveau couple qui a duré 6 ans et j'ai de nouveau connu l'infidélité. Donc, c'est un scénario répétitif qui est revenu dans ma vie. Et la deuxième fois, j'ai dit stop. J'ai dit, il faut comprendre ça, il faut s'introspecter. Et voilà, si tu ne changes pas, l'histoire se répète. Et du coup, je suis allé en profondeur dans ce sujet pour me comprendre moi et puis maintenant aider les autres à le faire.
Je trouve ça génial parce que déjà, c'est rare d'avoir du côté de la personne qui trompe. Souvent, la personne qui est trompée va se remettre en question, va essayer d'éviter ça les prochaines fois parce que ça peut être aussi un schéma répétitif. Mais pour la personne qui trompe, en tout cas, j'ai l'impression que des fois, c'est plus difficile de se remettre en question. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois? Et aussi, est-ce que tu arrives à nous dire pourquoi les personnes trompent? Alors, ça peut être femme comme homme, mais pourquoi on trompe?
Déjà, la personne qui trompe, elle est soumise à beaucoup de culpabilité. Il y a un côté, elle a écouté une part d'elle-même qui avait besoin de s'exprimer. Et de l'autre, elle écoute des jugements de soi-même et des autres. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de sortir du silence. Et on a vite tendance à vouloir rentrer dans le rang, entre guillemets, en disant, je suis le fautif, je suis le coupable. Et c'est les autres qui ont raison. Alors, pourquoi on trompe? Vaste sujet, évidemment. Il y a autant de versions que de personnes infidèles. Mais j'ai quand même, je suis allé quand même profondément chercher les choses dans ce sujet. Et finalement, j'ai trouvé 4 types d'infidélité. Ah. 4 types d'infidélité. Alors là, c'est vraiment un truc que je te livre, je n'ai jamais donné à personne.
Waouh, là on est en exclusivité. Attends, l'épisode sort quand vous l'écoutez, c'est début octobre, donc ouais.
Une pure exclusivité, j'ai jamais livré à personne. 4 types d'infidélité au départ. En fait, il y a une infidélité par nécessité. Infidélité par nécessité parce qu'on est viscéralement attaché à créer des relations avec plusieurs personnes à la fois. Donc on serait poly amoureux ou poli quelque chose, mais en tout cas, on n'est pas viscéralement exclusif dans son corps, dans son cœur, dans sa tête, et c'est une nécessité pour soi d'aller créer quelque chose vers l'extérieur. Enfin, en tout cas, créer des connexions avec plusieurs personnes.
Et en dehors de la relation exclusive.
Voilà. Une deuxième version, un deuxième type d'infidélité, c'est une infidélité pas pour égaliser. Donc, c'est souvent une espèce de compensation, une espèce de je suis mal dans mon couple et j'égalise parce que de toute façon, il m'a trompé d'un côté, donc je le fais de l'autre.
Okay, oui, ça peut être la revanche un petit peu.
Voilà, c'est quelque chose de finalement qui met les égos en jeu. Troisième type, c'est l'infidélité par curiosité. On est fondamentalement exclusif et on reste dans le silence avec ça, mais on va s'autoriser des petits rendez-vous comme ça, ponctuels. Et en fait, on est très au clair avec soi-même, on n'a pas besoin d'en parler, et ça reste voilà, secret. Je pense que c'est vraiment la majorité des personnes infidèles.
J'ai l'impression, parce que c'est aussi peut-être le plus simple, hein. On se fait bonne conscience à soi-même, on se dit « allez, c'est juste par curiosité, ça fait de mal à personne, si l'autre personne ne le sait pas, voilà, je suis bien avec ça ».
Je suis bien avec ça, mais je ne remettrai jamais en cause ce qui se passe dans mon couple et l'exclusivité et le bonheur que je vis avec cette personne. Et enfin, il y a le dernier type d'infidélité qui est l'infidélité par ambiguïté. Là, quelque part, ça pourrait partir d'une curiosité, mais on est rencontré une deuxième personne. On a finalement lié un relationnel, une émotion qui devient de plus en plus une deuxième histoire. Et là, quelque part, on n'a pas d'autre choix de manipuler par le mensonge, le secret, la trahison, parce qu'on n'a pas envie de casser son couple d'un côté et on n'a pas envie de renoncer à cette autre histoire de l'autre. Donc, l'ambiguïté, c'est la majorité des gens qui viennent me voir parce qu'ils sont vraiment soumis à ces doubles tensions entre la part d'elle-même qu'ils écoutent et une version d'elle-même en couple exclusif qui est aussi heureuse.
Et donc, ces personnes font face à un grand dilemme en plus, du coup, quand elles viennent te voir et elles ont peut-être besoin que tu les guides à trancher.
Oui, il y a un apprentissage à comment on fait un choix, comment on s'aligne en fait à ce qui nous fait du bien. Et c'est surtout dissoudre l'idée du bon ou du mauvais choix en fait. Parce qu'il n'y a rien de tout ça en vérité. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacune des situations. Et moi, ce que j'aide, c'est à se connecter à ses valeurs intérieures profondes, ce que j'appelle les VIP, valeurs intérieures profondes, qui font que, en fait, on incarne la version la plus sincère de soi-même. Mais ça implique autant de souffrance que de bonheur, ça implique autant de challenge que de soutien. Et c'est simplement que on est aligné à qui on est et on comprend que d'un côté, il faut choisir ses contraintes pour se sentir libre.
Donc il y a des contraintes quand même, on ne peut pas être totalement libre, quoi, ce que tu nous dis.
Je pense que c'est impossible.
C'est impossible.
Parce que si à un moment donné, on ne veut pas rentrer en conflit avec l'extérieur, on rentre en conflit avec son intérieur. Et c'est ce qui fait principalement les situations d'infidélité.
Et donc là, tu parlais des quatre types d'infidélité. Merci, c'est super intéressant. Donc, par nécessité, pour égaliser, par curiosité et par ambiguïté. Pour les personnes, du coup, en face, pour la personne qui a été trompée, alors tu as dit, il n'y en a pas une mieux qu'une autre, mais est-ce que selon ce type-là, il y a des choses différentes à mettre en place pour... Parce qu'il y a aussi cette question-là, une fois que la tromperie a été apprise, qu'est-ce qu'on fait de ça ?
En fait, je vais encore plus loin dans la compréhension des épisodes d'infidélité, c'est-à-dire que pour moi, ce sont des situations, circonstances qui apparaissent dans notre vie pour faire émerger des émotions, les revivre, les drainer. Ce que j'appelle drainer, c'est-à-dire revivre des émotions en lien avec notre passé, les blessures de notre enfance, ou en lien avec notre lignée. Je travaille aussi avec la psychogénéalogie. Donc, ces scénarios répétitifs de vie qui sont engrammés en nous, et que inconsciemment, on va créer des situations dans notre vie qui vont les faire réapparaître. Et les situations d'infidélité en sont des stratégies inconscientes pour refaire revivre ces émotions, que ce soit d'ailleurs pour la personne qui trompe, comme pour la personne trompée, comme pour la personne amant-amante. Finalement, on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau à essayer de chercher du sens et de se rencontrer soi-même.
Et avec l'infidélité, comme tu dis, on parle souvent de blessures de trahison, ou réveiller des blessures d'enfance, même transgénérationnelles. En quoi les situations d'infidélité peuvent réveiller nos blessures du passé ?
Bah, comme tu l'as dit, ça amène des situations donc, d'abandon. Donc, je me sens abandonné par mon conjoint qui va en aimer une autre. Ça réveille des blessures de trahison. Donc, je trahis avant d'être trahi. C'est ce qu'on a connu aussi dans l'enfance. Potentiellement en lien avec ses parents, ou que sa lignée a connue aussi. Voilà, le rejet, enfin voilà, toutes ces blessures qu'on connaît finalement apparaissent à ce niveau-là.
À ce niveau-là. Et donc ça mérite, comme tu disais, pour la personne qui a été trompée, la personne qui trompe, voir s'il y a une troisième personne, donc l'amante, l'amant, de faire un travail sur soi aussi alors. Est-ce que ça veut dire beaucoup ?
J'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est « La plus belle aventure, c'est celle qui mène vers soi. » Et donc, de nos aventures extra-conjugales, évidemment, c'est un message de la vie qui nous amène à se réaligner à soi-même et à se rencontrer, principalement soi, en lien avec une situation compliquée.
Oui, parce que là, ça donne presque envie de vivre des situations d'infidélité, mais on sait que ça peut être aussi très traumatisant, que ça casse la confiance dans le couple, la confiance en soi, on se sent humilié, on ne sait plus comment on peut faire couple. J'imagine que quand tu accueilles des couples ou des individus pendant ou après des épisodes d'infidélité, c'est pas évident à gérer émotionnellement.
Absolument, il y a des étapes dans lesquelles il faut nécessairement passer. Donc c'est toutes les phases de deuil. Enfin moi, je parle de l'étape d'accueillir. Finalement, c'est qu'est-ce qui est vivant aujourd'hui, ok? Lorsque je rencontre une trahison, lorsque mon conjoint, lorsque mon amant ne me répond plus parce que il s'est fait griller de son côté et du coup il a coupé toutes les communications. Qu'est-ce qui est vivant en moi quand je suis découvert et que j'ai toute cette culpabilité d'avoir bousillé une partie de mon existant. Voilà, donc vraiment pour moi, la première étape, c'est prendre le temps d'accueillir c'est quoi les émotions, c'est quoi mes besoins et quelle stratégie aujourd'hui je mets en place et est-ce que c'est bénéfique pour moi, pour mon couple et pour mes projets de vie.
Waouh, tout un cheminement, quoi, comme tu disais. Il y a une question qui revenait de la part des abonnés, c'est est-ce que l'infidélité, c'est un passage obligé chez les couples qui durent?
Je pense que chacun a ses stratégies pour trouver en fait l'alignement et faire en sorte que son couple ait du challenge. Je pense que le désir, et tu en parles parfaitement dans tes podcasts, le désir est par essence versatile, et il n'est pas en lien avec une seule et même personne. Et donc tout le monde, je pense, à un moment donné, sera confronté à cette énergie de désir qui apparaît. Et donc après, est-ce que ça mène vers une infidélité? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette énergie de désir vers une autre personne extérieure à son couple et à sa relation exclusive, ça, je suis convaincu que tout le monde pourra à un moment donné le ressentir. Et donc, c'est à ce moment-là que le challenge apparaît. Et si on met de la conscience dessus, nécessairement, c'est un parcours obligé pour grimper un peu en conscience.
Oui, conscience. Et du coup, on pourrait se dire, est-ce que être non exclusif, du coup, ça permettrait d'éviter la tromperie?
Eh bien, c'est là qu'on fait une erreur, je pense. Parce qu'effectivement, l'infidélité n'appartient pas à un type de relation. On peut, par définition, l'infidélité, c'est la trahison d'un contrat ou de la projection de ce qui avait été mis en place, que ce soit explicite ou implicite. On avait projeté quelque chose et c'est pas ce qu'on a projeté. Et ça, si on met cette définition-là, on peut l'avoir dans n'importe quel type de modèle relationnel. Et on peut appeler infidélité tout ce qui est en lien avec l'idée de « c'était pas prévu ».
C'était pas prévu, c'est venu comme ça. Et on parle beaucoup de la communication en ce moment, et on pourrait se dire, bon bah, si on communique dans notre couple, si on partage ce qu'on ressent, du coup on pourrait éviter des infidélités. Est-ce que tu vois aussi des infidélités chez des couples chez qui il y a une très bonne communication?
Je dirais un petit peu moins, parce que lorsqu'on s'autorise la bonne communication, on s'autorise à parler de soi, on s'autorise à écouter ce qui se passe chez l'autre, et on a un petit peu moins peur des conséquences de révéler ce désir. L'idée, c'est quand même de récupérer cette communication le plus tôt possible dans le couple, c'est-à-dire à ouvrir à l'idée de se dire, je ressens du désir pour cette personne-là, je ne suis pas passé à l'acte, mais là où c'est plus compliqué, c'est déjà quand on n'a pas eu cette volonté-là, ou en tout cas on a eu des peurs en amont, et il y a déjà du passage à l'acte, et il y a déjà des conséquences, et on projette aussi sur ce que mon partenaire va dire. Donc là, on a beau avoir communiqué en amont, ça reste quand même un sujet assez complexe. Et encore une fois, si je reviens dans une version vraiment, là on est sur du micro, mais dans le méta, cette situation apparaît pour une raison. Quelle qu'elle soit, pour moi, pour me comprendre moi, pour peut-être faire bouger les lignes dans mon couple, pour peut-être donc finalement prendre ce flot de vie en disant « Ok, j'ai pas été en mesure aujourd'hui, même si on communique bien, de le faire au bon moment, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça peut m'aider à comprendre pour moi, pour mon couple, pour mes projets ?»
C'est vraiment une piste, une clé de compréhension, bien que douloureuse. En tout cas, ce que tu dis quand ça arrive, c'est que ça vient dire quelque chose de soi et de la relation, mais déjà beaucoup de soi, de ce que j'entends, et que ça demande d'en avoir conscience, et que ça demande de pouvoir avoir une introspection là-dessus pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre pourquoi je vais vers ça, pourquoi je suis attirée vers ça, pourquoi je suis attirée vers ce genre de relation aussi, dans l'idée d'éviter ça dans le futur. C'est-à-dire pour toi, quand tu fais ça, est-ce que l'idéal pour toi, c'est que les gens arrêtent de se tromper ?
J'ai eu longtemps un message qui disait « détrompons-nous », mais qui était sur plusieurs plans, c'est-à-dire « détrompons-nous » dans l'idée que l'infidélité soit nécessairement quelque chose de mal.
C'est une question philosophique en plus. Hein.
Philosophique, à partir du moment où il y a un jugement humain sur le bien et le mal, on s'éloigne déjà d'une partie de la vérité. Donc les choses existent, okay, elles sont là pour une raison, et au regard d'une situation, une infidélité peut paraître mal sur les 3 premiers mois, mais 15 ans après, lorsque les deux couples ont refait leur vie, lorsqu'il y a eu des enfants d'un côté parce qu'on n'arrivait pas à en avoir de l'autre, lorsqu'il y a eu une histoire épanouissante de l'autre côté, ou un déménagement, ou un nouveau travail, en fait, au regard de, voilà, c'est ça, d'un espace et d'un temps donné, une infidélité peut apparaître finalement comme quelque chose de bénéfique pour la personne et pour son environnement. Je prends l'exemple, il suffit aussi de changer de regard. Si tu veux, tu prends un film romantique à l'eau de rose Disney. À un moment donné, l'héroïne va rencontrer quelqu'un pour lequel elle va tomber éperdument amoureuse. Et au final, elle va finir par être infidèle avec son mari qui la délaisse, etc. Quand on regarde l'histoire de ce filtre-là, on a l'impression que l'héroïne a bien fait. Elle a eu raison de vivre cette aventure parce que après ça lui a permis de grandir et devenir et d'incarner sa version la meilleure, voilà. Et donc en fait c'est une question de regard.
Et c'est vrai que ça peut être difficile hein, pour les personnes qui le vivent ou qui l'ont vécu et qui l'ont toujours comme ça mal aussi. Tu parlais là de voir sur le regard l'espace-temps et un retour en arrière finalement de voir que ça a pu avoir aussi du bon l'infidélité. Il y a même là aussi un couple que je suis, donc c'est un couple de 25 ans et c'est tout récent. Et finalement, la personne trompée dit « mais en fait, ça a été bénéfique parce que ça a permis de réduire un poids sur notre sexualité de couple, le fait qu'ils puissent vivre des relations. » Et qu'en même temps, pour la personne qui trompe, ça a permis pour la première fois de parler vraiment de sexualité en plus de 20 ans de relation et de découvrir finalement sa partenaire sous un autre regard et qu'il puisse explorer un peu plus la sexualité. Ça n'empêche pas qu'il y a des bas, mais en tout cas, ils ont réussi à trouver le côté positif de ça, que ça a été un réveil pour mettre du mouvement dans la relation qui s'était peut-être figé dans quelque chose qui ne leur convenait pas du tout aux deux personnes.
Absolument, ouais, je te rejoins tout à fait.
Et tu parlais aussi que ça peut être positif dans le sens aussi où certaines personnes m'ont dit ça peut être une humiliation, ça peut réveiller des traumas, ça a fait baisser l'estime de moi et en même temps, c'est devenu, après la révélation, le best sex ever dans le couple. Comment on en arrive là ? On vient de découvrir une infidélité et le couple devient tout chaud, tout flamme, quoi.
Il y a deux versions. Il y a la version « je vais perdre ce qu'il y avait, donc je m'y accroche ». Donc nécessairement, ça relance un truc parce que l'autre devient, n'est plus dans ma possessivité. Donc ça remet de l'espace, ça remet de la distance. Et donc nécessairement, quand l'autre ne m'appartient plus, le réflexe c'est de dire est-ce qu'on peut encore se plaire ? Et donc forcément, ça relance une énergie de fou.
Ça relance la chasse.
Ça relance la chasse. Et on sait que de toute façon, le désir, c'est une énergie qui circule. Donc, même la personne qui est infidèle dans son couple, dans le secret, elle a cette énergie de vie en elle, de se sentir à nouveau aimée, désirable, et de vouloir créer quelque chose. Et elle peut très bien ramener ça aussi dans le secret, auprès de son ou sa partenaire pour relancer un désir. Et quand le désir sera relancé, quand les projets seront nourris aussi à nouveau dans le couple principal, eh bien, elle pourra potentiellement dire au revoir à cette infidélité et à cette autre personne qui l'a aidé à se redécouvrir. Donc, il y a une double vertu aussi si on est capable de l'écouter.
Et là, je pense que les auditeurs et auditrices peuvent se poser la question aussi. Si justement je suis dans ce moment la personne qui trompe alors que je suis dans une relation exclusive, est-ce que j'ai intérêt à révéler cette infidélité pour le bien de la relation ou est-ce que j'ai intérêt à me taire ?
Encore une fois, moi, là, j'ai différentes étapes. Donc, c'est accueillir, comprendre, transformer et incarner sa version la plus sincère. Donc, toutes ces étapes-là, elles sont nécessaires à savoir si oui ou non, c'est bon pour, à dire et à révéler. Encore une fois, révéler, ça implique tout un système. Ça implique une deuxième personne avec ses propres blessures. Ça implique parfois des enfants. Ça implique tout un environnement familial. Et du coup, je suis ni partisan de le révéler, ni partisan de se taire. Je pense que ça appartient vraiment à chacun en réfléchissant à qu'est-ce que je veux voir émerger derrière. Et quels vont être les bénéfices et les inconvénients de le révéler.
Et pour ça, je pense que ça demande aussi un accompagnement, parce que qu'est-ce que je veux voir émerger derrière? Si je suis tétanisée par ce qui peut se passer, la peur, je vais dire, bah non, je vais garder le secret, quoi.
Oui, et si je me sens tellement coupable et mal que je ne peux pas travailler sur mon estime de moi sans révéler ça, et me remettre encore un coup de couteau en me disant, je suis vraiment une personne méchante et qui fait du mal, je vais le dire, parce que ça va soulager quelque chose. Mais en fait, ça va faire qu'en empirer. Et au regard encore d'une situation méta, peut-être que c'est une phase de vie dans laquelle tu as besoin de passer, dans laquelle ton partenaire qui va apprendre l'infidélité a besoin de passer. Et voilà, en fait, on n'en sait rien. La vie, c'est une danse.
Il n'y a pas de généralité, encore une fois. Et pour comprendre un petit peu aussi ton travail ou même des cas concrets, est-ce que tu en as peut-être un ou deux à nous partager un petit peu sur des cas concrets en ce moment, pour qu'on puisse voir aussi la diversité de ce qui se passe, peut-être justement une personne qui trompe et peut-être une personne qui est trompée, de voir un petit peu si tu as des scénarios exemples.
J'ai le scénario d'une femme qui est venue me voir parce que elle trouvait plus de sens à sa vie, elle est mariée, deux enfants, et finalement elle est allée reconnecter avec des hommes qui lui ont redonné le plaisir de vivre, le plaisir d'incarner la femme qu'elle avait toujours voulu être. Elle s'interroge, elle culpabilise, elle le dit dans son couple, pas de réaction. Ça ne crée rien, il n'y a rien qui se change. Donc elle s'interroge, elle dit comment je peux faire, est-ce que c'est un couple qui me correspond, est-ce que moi j'ai besoin de vivre cette expansion ailleurs. Donc on chemine, et voilà, peut-être que pour elle, la rupture est la meilleure des solutions. Bien qu'il y ait deux enfants et qu'elle puisse culpabiliser, etc. Mais si on dissout tous ces jugements-là, on s'aperçoit que lorsqu'elle se réaligne à ses valeurs profondes et à quel exemple elle veut montrer à ses enfants, ça passe peut-être pas par cette vie de famille qui était si bien rangée et toujours à être au service des autres et ainsi de suite.
Oh, ça risque de parler à beaucoup de femmes.
Voilà, exactement. Et puis j'ai un deuxième exemple peut-être qui parle plus. Donc c'était le monsieur qui est venu me voir parce que sa femme a été infidèle. Il avait besoin, lui, de voir... Enfin, il allait chercher des réponses à l'extérieur, d'essayer de comprendre pourquoi c'était apparu. Mais finalement, c'était des réponses à l'intérieur qu'il fallait aller chercher. Donc en quoi, lui, ça lui a fait tellement de mal de se sentir naïf, trahi, incompris et pourquoi lui, il ne s'était pas autorisé ça et elle, se l'était autorisé. C'est compliqué à ce moment-là. On a travaillé aussi. Après, j'ai travaillé avec sa femme aussi, qui avait beaucoup de culpabilité. On a travaillé en transgénérationnel. On a fait émerger des scénarios répétitifs de vie qui étaient dans sa lignée. Et ça a levé beaucoup de honte et de culpabilité. Elle est arrivée avec une autre énergie dans le couple. Et ils ont décidé de continuer de se choisir ensemble pour essayer de s'accueillir chacun dans les blessures de l'autre. Donc, on travaille sur la communication, sur l'ouverture, sur aider l'autre à identifier sa propre blessure. Parce que je pense que pour moi, le couple, à ce moment-là, il a un choix à faire. Et c'est est-ce qu'on a envie de travailler main dans la main ensemble pour grandir et être plus conscient et continuer cette famille qui nous plaît, ou c'est trop douloureux et on est mieux à se laisser. Et ça, c'est... On ne saura jamais, mais en tout cas, ils travaillent ensemble et aujourd'hui, ils cheminent à deux.
C'est vraiment un cheminement. Et ce que j'aime bien aussi, ce que tu disais souvent aussi par rapport à la confiance, parce qu'on se dit quand il y a tromperie, du coup, on a du mal à refaire confiance. Comment refaire confiance? Et tu dis, refaire confiance, c'est un véritable choix.
Exactement. Ouais, la confiance, c'est un choix. Et la confiance, ça inclut se faire confiance à soi-même. C'est-à-dire, quand j'ai trompé, est-ce que je vais être en mesure de faire différemment? Donc, je me fais confiance à moi-même. Se faire confiance à l'autre. Donc, est-ce que tout ce qui a émergé sur, voilà, il y avait ce truc dans notre relation qui dysfonctionnait, j'avais besoin de ça, est-ce que ça va bouger ou, voilà, est-ce que je fais confiance à l'autre pour nous amener un petit peu ailleurs, lui et moi? Et confiance en la relation, quoi. Est-ce qu'on est capable d'encenser des moments de qualité ensemble? Est-ce qu'on est capable de créer un projet de vie qui nous correspond à tous les deux?
D'ailleurs, c'est la question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut continuer à faire couple après une infidélité ou des infidélités, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une différence, hein, s'il y en a une ou plusieurs? Est-ce que tu peux nous donner trois pistes? Alors, tu nous as déjà dit quand même plusieurs, mais trois pistes aux personnes qui, justement, se retrouvent dans cette situation. Révélation. Oui, déjà, pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre une infidélité et plusieurs infidélités?
Alors, ça dépend encore des blessures de chacun, je pense. Si on a besoin de... J'avais fait un temps un espèce de tableau de score. Je ne l'ai pas trop extirpé, mais je pense qu'un jour, je vais le ressortir. Un espèce de tableau de score de genre la gravité pour l'autre de recevoir l'infidélité. Donc, si c'était cumulé en plusieurs fois, ça apaise un petit peu l'idée qu'il y a une autre personne en face, quoi. C'est plusieurs autres personnes, c'est plusieurs petites aventures qui, finalement, enlèvent un petit peu la charge émotionnelle. La question était du coup de savoir si...
Oui, il y a eu plusieurs questions dans ma question. La première qui était du coup, est-ce que tu vois, ou en tout cas dans le cheminement, est-ce que c'est différent entre s'il y a eu une infidélité ou plusieurs?
Alors, s'il y a eu plusieurs infidélités, c'est déjà qu'il y a eu plusieurs communications. Parce que souvent, on en révèle une, puis une deuxième, puis une troisième. Et finalement, quand on dit plusieurs, il y en a sans doute plusieurs que plusieurs.
Oui, donc, à des espaces-temps différés. Des fois, on peut en apprendre, puis ensuite, il n'y a plus rien. Il y a la promesse que ça ne recommencera plus, puis ça recommence. Et des fois, on l'apprend dans un package.
Voilà. Et quand c'est dans la même personne, on se retrouve finalement dans l'infidélité par ambiguïté que j'ai parlé au début, où finalement, il y a la personne amante en face qui est un petit peu mon propre miroir. Et donc, on va se retrouver à dire... qu'est-ce qu'elle a de plus? Qu'est-ce que j'ai de moins? Toutes ces difficultés-là de l'ego et de savoir qu'est-ce que je vaux, c'est quoi ma valeur? S'il en choisit une autre en même temps que moi, quel amour que je me porte à moi-même? Okay. Et donc, je pense que c'est plus compliqué quand, au final, il y a l'identification à une autre, en fait.
Et si on reprend aussi Esther Perel, quand elle parle des infidélités, elle dit qu'en fait, ça a souvent rien à voir avec la personne en face, mais comme tu disais, un miroir, hein, qu'est-ce qu'en fait, ça vient me dire de moi? Ça n'a rien à voir avec finalement la personne en face. Par contre, la personne en face me fait me sentir peut-être différent, et c'est ça qui me manquait dans ma vie de manière générale et dans mon couple.
Oui, tout ce que je réprime chez l'autre, c'est ce que j'ai pas aimé, c'est ce que j'ai pas appris à aimer en moi.
Ah, t'as des exemples un peu plus... Donc, tout ce que je réprime chez l'autre, c'est ce que je n'arrive pas à aimer chez moi-même.
Par exemple, pourquoi, à un moment donné, pourquoi l'infidélité peut aussi blesser? C'est-à-dire que, finalement, si on prend factuellement les faits, factuellement, il a... je dis « il », mais on traduira. Il s'est autorisé à écouter ses besoins. Il s'est autorisé à vivre la sexualité épanouissante qui l'intéressait. Ok, ça fait mal. Mais est-ce que toi, tu t'autorises à écouter tes propres besoins? Est-ce que toi, tu t'autorises à vivre la sexualité que tu veux?
Non, parce que je suis en couple exclusif, que j'ai promis de rester fidèle. Donc non, peut-être que j'ai du mal à communiquer sur ce que j'ai envie, ou peut-être que c'est pas entendu, mais comme je suis dans un couple exclusif, je me le permets pas, non?
Donc on juge l'autre sur son égoïsme. Mais ce qu'on juge égoïste, est-ce qu'on s'autorise à soi-même, en fait? Donc, ce que je réprime chez l'autre, c'est ce que j'ai pas aimé et c'est ce que j'ai pas appris à aimer en moi. Donc, moi, ma part égoïste, je l'aime pas. Mais ma part égoïste est aussi belle que ma part altruiste. Parce que ma part altruiste peut aussi me détruire moi, tout autant que la part égoïste peut détruire les autres.
Ouais. Alors là, moi, j'aurais envie de dire ça, et peut-être que, pareil, les femmes qui m'écoutent penseraient pareil, me dire « Oui, mais ok, alors si je me permets d'être égoïste, où on va, quoi, du coup ?» Parce que, du coup, tout le monde se trompe, on fait tout et n'importe quoi, il n'y a plus de socle, quoi.
En fait, c'est encore une fois se raccrocher à son système de valeurs. Okay. Mmh. C'est en quoi, à un moment donné de ma vie, m'autoriser de l'égoïsme a permis aux autres de comprendre leur part à elles d'égoïsme, a permis à moi de dissoudre ma part altruisme et de m'écouter pleinement. Okay. Parce que quand on juge l'altruisme en disant « mais oui, mais faire tout pour les autres, c'est bien », Ce n'est qu'un jugement de valeur et c'est encore bien ou mal, mais en fait faire tout pour les autres c'est bien, non, parce que si à un moment donné tu ne rentres pas en conflit avec l'extérieur, tu rentres en conflit avec l'intérieur. Donc en fait tout ça, et ça c'est encore une fois quand je travaille avec le passé, c'est des parts d'éducation qui ont été héritées, qui sont en lien avec mon passé, ma lignée, ma famille, et j'ai appris que ça c'était bien, ça c'était mal. Mais en vrai, c'est pas comme ça qu'on peut vivre une vie épanouissante. Une vie épanouissante, c'est embrasser toutes les parts de soi en se disant que d'un côté, je peux vivre ma part égoïste, d'un côté, je peux vivre ma part altruiste, et ça peut servir à tout le monde.
Et d'oser exprimer finalement aussi ses désirs au sein du couple et de voir vis-à-vis des désirs de chacun, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on va, mais en tout cas d'avoir cette communication-là aussi. Parce que c'est ensemble que le couple va finalement trouver ce qui leur correspond. Bien sûr, des fois, c'est là où il y a des zones de blocage. Moi, j'ai envie de ça, et pas elle ou pas lui, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, évidemment, demander de l'aide, d'être accompagné pour cheminer vers ces réflexions-là.
Absolument. Et ce n'est pas parce qu'on est dans la contrainte ou dans le « je me réfrène » que je ne trouve pas de liberté là-dedans. On peut très bien s'autoriser à fixer des limites claires et avoir énormément de bonheur à les respecter.
Alors, il y avait ma grande question, je reviendrai dessus, mais j'ai une autre question, je ne l'oublie pas cette question, mais qui était revenue de la part des abonnés, c'est si j'ai une double relation, mais que j'ai envie de travailler sur mon couple primaire, est-ce que je dois arrêter cette autre relation pour avancer sur mon couple primaire ?
Alors, ça dépend de la situation, est-ce qu'on est encore dans le secret ou est-ce que c'est au grand jour ?
Ça, je ne connais pas de la part des personnes. Disons que ça a été révélé.
Ok. En fait, un des dangers de se dire que ça a été... Quand ça a été révélé, de dire... Le premier réflexe, c'est de dire abandonne cette deuxième relation, reviens avec moi, exclusif, rentre dans le rang, on travaille ensemble. Sauf qu'il y a toute une énergie qu'on ne peut pas nier. Il y a peut-être un relationnel qui a été mis en place avec l'amant ou l'amante. Il y a sans doute un flot amoureux aussi, peut-être. Il faut admettre que l'amour se multiplie. On n'est pas en train de diviser quelque chose, mais on l'expand. Et donc, dire d'un coup d'un seul, c'est stop, c'est le premier réflexe. Et pour moi, il est dangereux parce qu'en fait, ça va ne faire que créer des frustrations sur la personne qui arrête. En plus, ça fait un petit peu, on l'enfantilise, et donc du coup, ça ramène des blessures du passé, et j'ai pas envie d'être cette personne-là. Donc je pense que c'est vraiment essayer d'accueillir, d'ouvrir le dialogue au maximum, potentiellement créer des espaces de rencontre sécurisés, en disant un petit peu plus de transparence, et puis c'est en fait à chacun de poser ses besoins, mais je pense que c'est... En fait, on donne une espèce de légitimité à la personne qui est trompée, de dire « j'ai raison de t'interdire ça » et reviens parce que c'était notre contrat d'il y a 15 ans. Mais en vrai, c'est à ce moment-là, évidemment, qu'il faut être accompagné. Hein. Je dis pas que c'est...
Ah oui, parce que ça peut demander beaucoup pour la personne qui est trompée, justement.
Exactement.
Aussi.
Il faut être
accompagné.
Voilà, c'est un monde qui s'écroule et ça, c'est clair que c'est extrêmement compliqué. Mais c'est extrêmement compliqué et c'est extrêmement compliqué de se dire qu'on est rapidement parti dans des mauvais réflexes qui ne vont pas nous aider.
Qui vont faire même que, en fait, revenir dans la situation précédente.
C'est d'ailleurs, moi, je prends mon cas personnel. La deuxième fois que j'ai trompé, on a décidé de continuer ensemble. Et j'ai dit, j'arrête avec cette amante et je n'y retournerai plus. Mais sans une introspection profonde, sans me faire accompagner et en gardant toute cette énergie de désir, etc., au bout de 6 mois, ça a été impossible à poursuivre. Et j'ai relancé cette histoire avec à nouveau encore un petit peu plus de secret, beaucoup plus cadenasser les choses pour dire, c'est quelque chose que j'ai à vivre pour moi et je laisse ma famille et mon couple en sécurité. Malgré tout, ce sont toutes les choses qui se vivent finissent par se savoir et ça a de nouveau remis une pièce dans la machine et les douleurs dans mon couple.
Ouais, et puis ça parle beaucoup, tu l'as dit un petit peu, hein, d'appartenance aussi, hein. L'autre m'appartient, et du coup on peut se sentir prisonnier aussi de ça, et j'ai juste de dire que tu dois rentrer dans les ronds parce que tu m'appartiens, et en fait on reste dans ce cercle-là.
Non, mais c'est exactement ça, mais encore une fois, il ne faut pas se juger de le penser, parce que c'est un réflexe qu'on a acquis, c'est notre enfant intérieur qui est blessé, c'est toute notre lignée qui est derrière et qui a souffert pour ça. Donc, faut pas s'en vouloir d'avoir ce premier réflexe-là. Il faut l'accueillir, mais il faut y mettre de la conscience pour effectivement s'élever sur autre chose.
Et il faut avoir aussi une bonne dose d'estime de soi, parce que la personne qui a été cocu, hein, il y a encore tout ce stéréotype-là aussi, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? C'est une humiliation, on va me dire « Oh, mais ma pauvre !» ou alors « Ah, t'es vraiment naïf !» C'est pas évident aussi, hein. Faut avoir une sacrée dose d'estime de soi pour rebondir.
Ouais, absolument, et du coup, c'est encore une fois des blessures qui réapparaissent, le rejet, l'injustice, l'abandon. Donc, en fait, et puis cette personne-là, quelque part, elle a... Je dirais pas qu'elle a rien demandé parce que tout un système a fait en sorte que tout le monde en est arrivé là. Mais finalement, elle se prend ça comme un gros mur parce que c'était quand même un peu sous le tapis depuis un moment. Donc effectivement, c'est violent. Et voilà, on ne le dira jamais assez, mais je pense que la chose à faire, c'est de se faire accompagner clairement, c'est de parler, d'être en mesure de quelqu'un qui vous écoute. Et qui ne vous juge pas.
Important. Et du coup, ça y est, j'arrive à ma question quand même au bout de 10 minutes là. Peux-tu donner 3 conseils justement aux personnes qui se retrouvent dans cette situation de tromperie, qui, va suivre un processus d'accompagnement, hein, peut-être vont le commencer bientôt. 3 conseils à ces personnes-là.
Je vais en donner 8.
Waouh ! Allez, c'est parti.
Non, en fait, moi, je parle des 8 curiosités pour dépasser l'infidélité. Et donc, pour moi, on ne peut pas dépasser une crise adultère sans passer par ces phases-là. Donc, il y a la première phase, c'est la phase de compréhension, ce que j'ai dit tout à l'heure, accueillir, qu'est-ce que je vis, mes besoins et mes émotions. Une phase de communication entre partenaires. La reprise en main de sa confiance et celle de l'autre. La discussion autour d'un contrat, qu'est-ce qu'on fait de notre relation et comment on le fait évoluer. L'apprentissage au choix, qu'est-ce que je fais, quels sont les choix que je fais pour moi, pour mon couple, pour ma famille. Un travail sur les croyances, est-ce que ce que je le pense vraiment ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai hérité. Un travail sur le corps et ma sexualité, tout ce désir, tout ce feu qui est en moi, cette libido, soit qui est en berne, soit qui est en volcan, comment je la travaille et comment ça me ramène à moi-même. Et un travail sur la clairvoyance, ce que j'appelle, donc la clairvoyance, c'est un travail sur sa lignée, sur la transgénérationnelle, sur tous les messages que j'ai hérités et qui finalement me font répéter un scénario. Et m'appelle à incarner une version différente de moi-même. Donc voilà, si on passe par ces 8 curiosités, encore une fois, curiosité, ça vient du latin, cura, prendre soin. Donc on a envie de prendre soin de soi, de l'autre, de son couple. Et si on passe par ces phases-là, confiance, comprendre, communication, contrat, choix, croyance, corps et clairvoyance, alors on peut dépasser la crise.
Merci Vincent. Est-ce qu'il y a un mot un mot important, un message important à transmettre justement aux personnes qui passent par là ? Il y a plein de messages importants là que tu nous as transmis, mais là, si les personnes devaient retenir qu'une seule chose en écoutant ce podcast, qu'est-ce que tu aimerais qu'elles retiennent ?
La plus belle des aventures, c'est celle qui mène vers soi.
Merci Vincent. Les personnes peuvent te retrouver sur ton compte Instagram. Dis-nous tout.
Exactement. Compte Instagram, Vincent Liandra, programme Amour Happy. Donc j'aide les personnes à devenir plus confiantes et résilientes à travers donc, ces épisodes de crise autour de l'infidélité pour dépasser ça alors à travers un programme qui va prochainement sortir et des coachings individuels.
Super, merci. Et je tiens vraiment à remercier ton compte Instagram parce que ça a permis de voir l'infidélité aussi sous un autre regard. Hein. Plutôt, je te dirais, plutôt la personne qui trompe et d'essayer de comprendre aussi cet aspect-là. Et je trouve que tu apportes beaucoup de légèreté aussi sur un thème aussi lourd, aussi déstabilisant et des fois traumatisant. Et je pense que bah, ça fait du bien à beaucoup de personnes. Donc, merci pour tout ça.
Merci beaucoup à toi, merci pour ce podcast, merci pour ce que tu fais, évidemment. Il y a eu beaucoup de philosophique dans tout ce qu'on a raconté, mais la vérité, c'est ce qui se passe dans les gens, chez les gens. Et notre métier aussi, c'est de ramener cette philosophie au sein d'un quotidien, au sein de quelque chose de concret pour la personne, comment on fait avec ce qui est vivant aujourd'hui. Et ça, c'est important. Et tu le fais, on le fait, et c'est un super métier.
Amen. À bientôt, Vincent.
Merci beaucoup, Camille. À très bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a appris des nouvelles choses. Si vous posez des questions, si vous souhaitez consulter, je vous mets pareil dans les notes du podcast le lien pour réserver votre prochaine séance avec moi. Et puis, en attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite, comme d'habitude, de belles explorations intimes. À la semaine prochaine.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.